Chapitre 30. David Jordan retire ses chaussures tout en parlant au téléphone avec le directeur des programmes Actualité et Société de TV4. Celui-ci lui raconte qu'il prépare un sujet sur le ministre des Affaires étrangères pour les infos de 22 heures. Du vestibule, DJ se rend dans la salle à manger. La lumière ricoche sur la mer agitée et entre à flot par les baies vitrées. « Tu savais que Rex Mueller et William Falk étaient de vieux amis ?» demande DJ. « C'est vrai. Et je crois, ou plutôt je sais que Rex serait prêt à passer à l'antenne si tu veux apporter un éclairage personnel à l'affaire, » poursuit-il, parcourant du regard les rochers qui descendent vers le ponton. « Ce serait absolument formidable. Bien, alors je lui demande de t'appeler. » « Ne traîne pas, » dit le directeur. Les vagues écumantes frappent le ponton, le bateau tire sur ses amarres et les pare-battages rebondissent sur la surface de l'eau. La conversation terminée, DJ envoie un texto à Rex lui disant que le directeur a mordu à l'hameçon, mais qu'il doit attendre 40 minutes avant de l'appeler pour ne pas paraître trop intéressé. DJ a déjà écrit un certain nombre de textes que Rex pourra publier sur les réseaux sociaux. Il est assez certain que ses contributions, plus l'interview télé, vont permettre d'éviter un scandale. Si les gens apprennent que Rex a uriné dans la piscine du ministre, ils vont interpréter son comportement comme la dernière plaisanterie entre deux vieux amis. Rex dira qu'il est sûr que Villeux a éclaté de rire en regardant la vidéo de surveillance avant sa baignade du matin. DJ s'attarde devant la fenêtre. Les pensées fusent dans sa tête. Il s'est occupé des problèmes de Rex. Maintenant, il faut qu'il s'occupe des siens. Beaucoup de choses se sont passées dans sa vie dernièrement dont il ne peut parler à personne. Rex serait sans doute prêt à l'écouter, mais le boulot de DJ est d'aider Rex, pas de l'accabler avec ses propres soucis. Il retourne dans la cuisine, s'arrête devant le porte-document en cuir noir posé sur le plan de travail en marbre. Il faudra quand même qu'il examine sérieusement son contenu avant de prendre une décision. Les vagues écumantes de la baie sont opalescentes. David Jordan tend la main droite et essaie de défaire le bouton pression du dossier, mais c'est trop difficile. Ses doigts n'ont plus de force. Une immense fatigue vient l'envelopper au point que sa nuque ne parvient presque plus à soutenir sa tête. Avec des mains inertes, il cherche dans ses poches, trouve le flacon de Modiodal, répand les comprimés sur le marbre, lâche le flacon vide et l'entend heurter le sol. Il pose un comprimé sur sa langue et l'avale. Il n'arrive plus à fermer la bouche, mais sent le comprimé glisser dans son gosier. Il tente de s'allonger avec précaution, se retrouve sur le côté, ferme les yeux et voit la lumière à travers ses paupières. En se réveillant par terre une demi-heure plus tard, la forte luminosité l'angoisse et son cœur bat la chamade. David Jordan souffre de narcolepsie avec cataplexie depuis 7 ans. C'est une maladie grave mais pas mortelle. Lorsqu'il ressent de la peur ou une forte émotion, il peut soudain perdre le contrôle de certains muscles ou être pris d'un besoin irrépressible de dormir. Une des causes de la narcolepsie serait le taux très bas d'une protéine du cerveau qui régule le sommeil et l'état de veille. Selon son médecin, tout porte à croire qu'une infection au streptocoque a activé cette maladie héréditaire, même s'il préfère affirmer qu'elle est due à une expérimentation militaire secrète à laquelle il a participé. Il se redresse et s'appuie sur sa main pour se relever. Il a la bouche sèche et sa tête est sur le point d'exploser. Il regarde la mer. Un des pare-battages du bateau a été projeté sur le ponton détrempé. Les vagues se brisent et l'écume blanche continue de bouillonner. Il essaie de se ressaisir avant de regarder de nouveau le porte-document. Ses mains tremblent quand il défait le bouton pressoir et sort le dossier. Il feuillette les données sur Carl Eric Ritter. Son cœur bat tellement fort qu'il sent ses oreilles bourdonner en regardant la photographie. Il s'efforce de retrouver son calme, se concentre et commence à lire. Au bout d'un moment, il est obligé de poser les documents. Il va ouvrir le grand meuble de bar et se verse un verre de whisky qu'il vide d'un trait pour le remplir aussitôt. Il pense à sa mère et serre les paupières pour retenir ses larmes. Il n'est pas un bon fils. Il travaille trop et va la voir trop rarement. Elle est malade, il le sait très bien. Mais il a quand même eu du mal à accepter ces périodes sombres. Après chaque visite, Il s'est senti mal et honteux. La plupart du temps, elle ne lui parlait pas, elle ne le regardait même pas, restait seulement allongée, immobile dans son lit, les yeux tournés vers la fenêtre. Durant l'enfance et l'adolescence de David Jordan, sa mère était traitée pour dépression unipolaire, idées délirantes et automutilation. Il y a un an, il l'a installée dans un établissement de soins haut de gamme, spécialisé en troubles psychiques chroniques et en syndrome de stress post-traumatique. L'équipe médicale de cette nouvelle clinique considère sa dépression comme découlant directement de son SSPT chronique et a entièrement modifié le traitement médicamenteux et la stratégie thérapeutique. La dernière fois que DJ lui a rendu visite, elle n'était plus allongée passivement dans le lit. Elle avait pris le bouquet de fleurs qu'il lui apportait et l'avait placé dans un vase avec des mains tremblantes. Il s'était assis à une petite table dans sa chambre et avait bu du thé dans des tasses en porcelaine et croqué de petits biscuits fins au gingembre. Elle lui avait répété plusieurs fois qu'elle aurait dû lui préparer un vrai repas, ce à quoi il avait invariablement répondu qu'il avait déjà mangé. Une pellicule de gouttes de pluie recouvrait la fenêtre. « Je sais que je n'ai pas été une bonne mère, » avait-elle dit. « Bien sûr que si. » Pour la première fois en plusieurs années, sa mère s'adressait directement à lui et il avait compris que c'était grâce à la modification de son traitement. Elle l'avait regardé et avait expliqué, dans des termes qui semblaient appris par cœur, qu'elle avait fait une tentative de suicide quand il était petit parce qu'elle avait subi un traumatisme. « Tu as commencé à parler à ton thérapeute de l'accident de voiture ?» avait-il demandé. « Quel accident de voiture ?»« Maman, tu sais que tu es en mauvaise santé, que tu n'étais pas en état de t'occuper de moi. C'est pour ça que j'habitais chez mamie. » Lentement, elle avait posé sa tasse, puis lui avait fait le récit d'un viol épouvantable. Elle avait décrit tout le déroulement d'une voix sourde. Ses fragments de souvenirs étaient tantôt d'une précision glaçante, tantôt proche du délire. Et soudain, David Jordan avait compris. Sa mère ne s'était jamais montrée nue devant lui quand il était petit, mais il avait quand même aperçu ses cuisses et le sein abîmé. « Je n'ai jamais porté plainte », avait-elle chuchoté. De nouveau, il pense à elle. Vieillie avant l'âge à cause de la maladie et des médicaments, assise là, sa main décharnée plaquée sur la bouche, pleurant et prononçant le nom de Karl-Erik Ritter. Le visage de DJ s'était empourpré. Il avait essayé de parler, mais avait été pris du pire accès de narcolepsie de sa vie. Quand il s'était réveillé par terre, sa mère était en train de lui tapoter la joue. C'était inouï. Pendant toute sa vie d'adulte, il lui avait reproché de ne pas avoir su combattre son angoisse. Un accident de voiture peut être terriblement traumatisant, il en convenait, mais elle s'en était sortie, elle avait survécu. Par période, elle s'était même portée plutôt bien et avait pu jouer son rôle de mère de famille, mais à certains moments, elle tombait dans un trou noir et était incapable de s'occuper de lui. Ce jour-là, à la clinique, il avait vu toute sa fragilité. Il avait vu son corps abîmé et rongé par la peur. Il avait vu qu'elle reculait toujours instinctivement, prête à subir la violence et la douleur. Aujourd'hui, il ressent une immense compassion pour sa mère. Bien qu'il comprenne l'inutilité de sa démarche, il a localisé Karl-Erik Ritter pour pouvoir croiser son regard. Ce sera peut-être suffisant. DJ n'aura peut-être même pas besoin de lui demander s'il pense parfois à ce qu'il a fait, s'il comprend la souffrance qu'il a causée. Tandis que la vie de Karl-Erik Ritter continuait, le viol avait condamné sa mère à devenir une femme terrifiée, en proie à des dépressions récurrentes et à des idées suicidaires. Il est possible que l'homme nie tout. L'événement date et son crime est prescrit. Mais quoi qu'il en soit, il saura que DJ est au courant de ce qu'il a fait. Comme Karl Erik Ritter n'a pas à craindre de suite judiciaire, il sera peut-être prêt à parler et à condamner la personne qu'il était ce jour-là. L'idée d'un tel face-à-face a germé dans l'esprit de DJ. Il retourne la photo et observe le visage de nouveau. Il sait que la rencontre ne lui apportera probablement aucun soulagement, mais elle lui semble nécessaire pour mettre un terme à ses ruminations.